Le chapitre que nous abordons maintenant est intitulé « Vérité et fantasmes sur l'hypnose et l'hypnothérapie ». Alors nous avons déjà, dans un chapitre précédent, abordé ce sujet. Nous avons déjà vu quelques fantasmes dans le chapitre concernant les définitions sur l'hypnose. Il faut savoir que très souvent, même si notre clientèle, la plupart du temps, est composée d'une grande majorité de gens qui se sont préalablement renseignés sur l'hypnose, la plupart du temps, ils auront quand même des questions à vous poser. Ils souhaitent lever le doute, ou certains doutes, peu importants, mais qui subsistent malgré tout, ou être renforcés dans leur démarche et attendre de vous des réponses clair sur certains sujets, certains points. N'oubliez pas que très souvent, ce sont des gens qui n'ont jamais eu affaire à l'hypnose, si ce n'est par le bouche à oreille de leur relation ou de membres de leur famille, ou s'être renseignés sur Internet. Et puis malheureusement, ce sont aussi des gens, depuis un certain temps, depuis plusieurs années maintenant, qui... Et ce n'était pas vrai finalement il y a quelques il y a 4-5 ans. L'hypnose est revenue en France, on va dire, il y a une vingtaine d'années, mais d'une manière assez importante, il y a une dizaine d'années. Et les gens étaient assez confiants dans cette technique, dans l'hypnothérapie. Ils le sont toujours, sauf que depuis quelques années, là, 2-3 ans, il y a un phénomène de show business finalement. Toute cette hypnose que l'on voit à la télé avec Mesmer et compagnie, qui présente l'hypnose à toutes les sauces et surtout à la sauce la plus ridicule, qui est celle du spectacle. Donc les gens parfois se sentent un peu déroutés, même s'ils ont confiance, même s'ils ont envie d'essayer, même s'ils ont besoin de travailler sur certains aspects de leur personnalité, certaines souffrances encore une fois, et ont envie de changer certains comportements difficiles. Ils sont parfois déroutés, et ce sont des questions que nous allons voir maintenant, qui non seulement ne sont pas rares, mais sont extrêmement fréquentes, puisqu'encore une fois, ils n'ont jamais eu l'occasion de travailler avec un hypnothérapeute. Alors vous devez bien évidemment présenter la chose comme l'hypnose que vous utilisez, l'hypnose clinique, l'hypnose thérapeutique, et ce n'est pas rien si j'utilise ces mots, hein. Je pense qu'il est vraiment important de plus en plus essayer de faire passer dans l'esprit des gens ces mots, hypnose clinique ou hypnose thérapeutique, plutôt que hypnose tout court, qui est toujours assimilée avec ce spectacle, et de plus en plus tant que les chaînes de télé nous abreuveront de ces spectacles. Donc, ils ont besoin d'être rassurés. Nous avons déjà abordé dans les définitions quelques fantasmes, et nous allons en voir quelques-uns, quelques autres. Et ce sont des réponses, finalement, que vous allez apporter fréquemment en cabinet. Donc, il est important d'avoir un discours clair, cohérent, honnête. Encore une fois, la communication et la confiance et l'interaction entre le thérapeute, l'hypnothérapeute et le client se fera d'autant plus facilement. Alors je vous invite, si vous le souhaitez déjà, à consulter mon site internet www.hypnose.com. Dans la rubrique questions fréquentes sur l'hypnose, il y a toute une série de questions où je démystifie l'hypnose et où je réponds déjà à des questions que j'ai retrouvées tout au long de ma carrière le plus fréquemment. C'est pour cela que j'ai choisi précisément ces questions, et c'est pour cela que j'y réponds. Et on verra ensuite quelques autres questions qui ne sont peut-être pas sur le site internet. Alors, une des premières questions finalement, c'est: est-ce que puis-je être hypnotisé contre ma volonté? Bon, là effectivement, ça prête à sourire. Bien souvent finalement, les gens pensent que nous aurions cette capacité, même lorsqu'il n'y a pas eu d'induction, lorsqu'il n'y a pas d'état de transe, de pouvoir hypnotiser, implémenter les choses dans l'esprit des gens. Bon, là, effectivement, on est dans le fantasme, dans la littérature, c'est Hollywood, carrément. Alors, bien évidemment, non. Cette question fréquente que vous allez rencontrer, systématiquement, vous répondrez non. l'hypnose est un état de modifié de conscience. Donc, qui dit état modifié de conscience, dit de conscience. Ça veut dire que on est toujours dans cet état modifié. Ça veut dire que finalement, in fine, le sujet a toujours son libre arbitre. S'il se sent mal à l'aise pendant la séance, dans un état de transe hypnotique, il peut en sortir. Donc, on ne peut pas continuer le processus d'hypnose, le processus de transe, s'il n'est pas volontaire, s'il n'accepte pas de jouer le jeu, quelque part. Il n'y a aucune prise de contrôle de l'esprit des gens. Ça n'existe pas. On me demande, est-ce que vous pouvez contrôler mon esprit ? Ça, c'est quelque chose que, effectivement, le cinéma, un peu moins la littérature, nous a donné à voir. Mais non, personne ne peut contrôler l'esprit des gens, même des pathologies mentales lourdes, même avec des médicaments. On ne peut pas transformer un humain en robot, bien sûr, en le privant de sommeil, bien sûr, en le droguant. Potentiellement, en cassant sa volonté, on peut obtenir certaines choses de lui, mais on ne peut pas contrôler un esprit. Encore une fois, on ne peut pas le transformer en robot. Donc, on ne peut pas prendre le contrôle d'un esprit, on ne peut pas hypnotiser contre la volonté d'une personne. Voilà, ce qui est important de retenir, c'est que finalement, le sujet doit être volontaire. Il accepte de rentrer dans cet état, il accepte de jouer le jeu, il accepte de lâcher prise, parce que la finalité, c'est modifier des comportements douloureux, de souffrance, aller vers un mieux-être, mieux vivre, et de toute façon, cela se ressentira dans la confiance qu'il va vous donner, dans l'entretien que vous allez dérouler. Alors maintenant, nous allons répondre à une autre question, et nous avons déjà abordé il y a peu de temps dans un podcast précédent le sujet. Est-ce que l'on peut se souvenir de souvenirs enfouis ? Donc, est-ce que l'on peut retrouver des souvenirs enfouis ? Alors, potentiellement, oui, on peut. On peut très bien retrouver des souvenirs enfouis. Je vous ai expliqué que je n'utilisais pas cette technique, sauf dans des cas particuliers pour des choses anodines, mais pas pour travailler sur de l'émotionnel. Donc oui, on peut retrouver des souvenirs enfouis, des images enfouies, situations oubliées, et ça c'est peut-être le plus important, des situations oubliées. Quant aux souvenirs enfouis, il faut se méfier que ce ne soit pas des souvenirs écrans, des souvenirs déplacés, et ça, nous n'avons pas cette maîtrise. Nous ne savons pas si tel souvenir avec lequel le patient pourrait revenir est un souvenir écran. Donc, nous ne mettons pas en place ces procédures, nous ne tentons pas de les analyser, les interpréter, nous ne proposons pas aux clients de travailler là-dessus. Maintenant, pendant une séance, c'est assez fréquent, il peut y avoir des pensées dites parasites, et ces pensées parasites, ça peut être un souvenir ancien qui revient, vrai ou pas vrai, peu importe, nous on ne va pas l'utiliser, encore une fois on ne va pas l'interpréter, à la fin de la séance, après le réveil hypnotique, on va laisser le client avec ce souvenir, il en fait ce qu'il en veut, dans la mesure où il ne faisait pas partie de la demande initiale du client. Est-ce que je me souviens, une autre question assez fréquente, de ce qui a été dit pendant la séance ou de ce que j'ai pu générer pendant la séance ? Eh bien, la réponse est oui et c'est non. Parfois, effectivement, certains se souviennent très précisément de ce qu'ils ont pu vivre, mais comme on fluctue pendant une séance, comme notre état de sommeil hypnotique est plus ou moins profond, comme notre inconscient est peut-être plus ou moins ouvert, et de tout cela, on n'a pas les moyens de le déterminer, on n'a pas les moyens de le quantifier. Oui, parfois, on se souvient très précisément, plus modérément ou pas du tout. Alors, la grande question, et là, je n'ai pas la réponse non plus, et personne ne l'a, c'est si l'on ne se souvient pas de ce que l'on a pu vivre pendant la séance, que ce soit les images, des émotions ou des sensations, est-ce que cela va avoir une efficacité ? A priori, on aurait tendance à dire non. Mais nous ne le savons pas, peut-être, finalement. Peut-être que l'inconscient, lui, travaille, reçoit des matériaux, les utilise dans un état de sommeil hypnotique profond. Je dis sommeil hypnotique parce que bien souvent, lorsqu'on me dit « je ne me souviens de rien », malgré tout, dès que l'on entame la phase pour de fin de séance pour revenir, où je dois compter, pour faire revenir, sortir le sujet, le patient, de l'état d'hypnose, le client va à ce moment-là très bien effectuer toutes les phases et toutes les instructions. Cela signifie que finalement, même s'il dormait et qu'il ne se souvient de rien pendant la séance, à ce moment-là, il ne dormait pas. Donc, pour conclure ce point, si l'on dort, peut-être que, effectivement, néanmoins, l'inconscient utilise des matériaux. On n'en a pas la preuve. Voilà, il faut encore une fois rester humble, l'expliquer au patient. La plupart du temps, il accepte, si ce n'est tout le temps, il accepte cette interprétation. Et surtout, de toute façon, comme on l'a déjà dit, peu importe le ressenti pendant une séance, puisque ça c'est du ressenti conscient, et que nous travaillons finalement à envoyer des matériaux à l'inconscient, l'inconscient qui lui-même va faire le travail qu'il souhaite de façon autonome et dynamique, l'important c'est qu'on verra ultérieurement, et le patient le ressentira, s'il y a des bénéfices ou non à cette séance, ou aux séances qui suivront, quel que soit son état, qu'il se souvienne ou pas de ses visualisations, de ses sensations, de ses ressentis. Bon, encore une fois, on a tendance à croire que mieux vaut se souvenir. Cela signifie que même dans un état particulier, on était plus présent. En étant plus présent, on est mieux à même d'envoyer des matériaux pour travailler. Encore une fois, pour conclure cette fois-ci, sur ce point-là, des gens qui vont réellement s'endormir, qui ne se souviendront de rien, statistiquement, c'est de l'ordre de 1 pour 1000, donc d'une séance pour 1000 séances environ, et peut-être moins. Alors, je ne suis pas suggestible ou je ne suis pas hypnotisable, nous l'avons déjà vu, nous sommes tous sujets à la suggestion, nous sommes tous dans des états d'hypnose, donc d'état de conscience modifié à partir du moment où nous réveillons jusqu'au moment où nous endormons. Donc là, la question est vite éludée. Vous pouvez la renforcer par des exemples. Alors, également, une question assez fréquente, combien de séances sont nécessaires? Ça, je crois qu'on l'a déjà vu également. Personne ne peut répondre à ça. Encore une fois, on ne propose jamais des packs de 10, 20, 30 séances. On ne propose pas de se rencontrer deux fois par semaine, ça n'a aucune utilité. Ce que l'on constate avec l'hypnose, c'est lorsqu'il y a des résultats plus ou moins importants, ils se font jour rapidement. Alors, une autre question fréquente et un autre fantasme potentiel, ne pas se réveiller en état d'hypnose. Alors là, je crois que la réponse est claire, personne ne s'est jamais endormi définitivement dans un état d'hypnose. L'état d'hypnose n'est pas un sommeil profond qui va nous conduire malheureusement à la mort. Voilà, c'est un état de conscience différent, modifié, parallèle, plus ou moins profond. Tout le monde se réveille. Les rares cas où les gens ne se réveillent pas, je ne sais pas si je vous en ai parlé, ce sont des gens qui s'endorment, qui ne se réveillent pas. On s'entend, il faut que à la fin de la séance, je vais quand même les réveiller en insistant deux, trois fois. Peut-être à un moment donné en leur touchant l'épaule, voilà, j'ai connu un taux, encore une fois, de 1 pour 1000 ou moindre encore. Toute ma carrière, je crois que j'ai 2-3 personnes qui ne se sont pas réveillées à la fin de la séance, qui se sont réveillées encore une fois que j'ai insisté. Et ces personnes étaient des gens qui avaient travaillé la nuit, dans les 2 ou 3 cas, hein, qui avaient travaillé la nuit, qui étaient venus très tôt le matin, donc ils n'avaient pas eu de nuit de sommeil ou une nuit très courte. Donc là, en fait, il s'était littéralement endormi. Donc on se réveille, bien évidemment, toujours après une séance d'hypnose. Autre question formulée très simplement par les clients et assez fréquente, il faut y croire pour être hypnotisé. Certains me disent, j'y crois. Ou d'autres disent, je crois en tout ce qui est paranormal. métaphysique, donc ça devrait fonctionner pour moi l'hypnose. Bon, vous pouvez abonder dans leur sens, hein, s'ils y croient, après tout, pourquoi pas. Maintenant, s'ils sont des gens qui vous disent qu'ils y croient et qui sont ouverts à la discussion, vous pouvez aussi leur expliquer, comme on l'a déjà fait, que peu importe nos croyances, personne n'est à même de dire s'il faut une dose de croyance, entre guillemets, dans l'hypnose pour que cela fonctionne ou pas. Dans tous les cas, c'est chez tous les humains un état naturel. Voilà, donc il y a ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas, mais dans tous les cas, on est tous dans cet état d'hypnose la plupart du temps dans la journée, notamment lorsqu'on est concentré, et probablement lorsque nous ne sommes pas concentrés aussi. Donc pas besoin d'y croire pour être hypnotisé, et notamment nous avons des résultats avec des gens qui y croient ou qui n'y croient pas, des gens qui sont intéressés par la métaphysique, par la religion ou par d'autres phénomènes paranormaux. Ça n'a aucune incidence sur l'efficacité ou pas du travail que vous allez faire. Moi, ce que je dis fréquemment, et même si nous les thérapeutes, nous ne devons pas parler de nous et le moins possible de nous, je mets un peu en avant à ce moment-là et je leur dis que, et cela permet de tisser un lien supplémentaire de confiance, je leur dis que en fait, moi je suis quelqu'un de très terre-à-terre, de très cartésien, je ne suis absolument pas croyant en quoi que ce soit, hein, d'un point de vue religieux. Pour moi, l'hypnose, même si elle est inexpliquée, c'est un phénomène extrêmement cartésien, sauf qu'on ne le connaît pas. On ne connaît pas le mécanisme de l'inconscient, on ne connaît pas le cerveau, partant de là, et ce n'est pas le seul domaine dans lequel la science n'a pas de réponse, et où toutefois, on constate par les faits la vérité. Voilà. Donc pas besoin d'y croire pour être hypnotisé. L'hypnose, ça coûte cher. Faire des séances d'hypnose, ça coûte cher. Alors bon, déjà, il faut toujours être clair sur vos tarifs. Vous les adaptez en fonction du lieu où vous exercez. Vous les adaptez, si vous le souhaitez, en fonction des revenus de vos clients. Moi, pour ma part, j'ai un tarif unique. Vous pouvez proposer, si vous le souhaitez, aux indépendants, commerçants et autres... et autres professions libérales de faire une facture, parce que si vous exercez dans un cadre légal, vous aurez le droit de faire des factures, et eux auront le droit de le faire passer en frais. Alors bien évidemment, hypnose, ils auraient tout à fait le droit, dans leur cadre professionnel, de travailler sur certains points qui seraient utiles dans leur cadre professionnel. Bon, c'est plus facile souvent de mettre comme libellé sur la facture « coaching », et là vous adaptez. Mais dans tous les cas, d'un point de vue comptable et fiscal, c'est tout à fait légal. Alors l'hypnose, ça coûte cher parce que c'est pas remboursé. Alors il faut savoir que certains psychiatres ou certains médecins pratiquent l'hypnose en cabinet et vont faire une feuille de soins. Et ça c'est illégal. L'acte d'hypnothérapie, pour l'instant, n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Donc pratiquer un acte non remboursé en faisant une feuille de soins, ça, c'est malhonnête et c'est illégal. Mais bon, peu importe, mais il faut le savoir. Donc c'est cher et c'est pas assez cher. Bon, encore faut-il s'entendre, hein. Mon tarif par exemple est de 80 € par séance. La séance ne dure pas un quart d'heure, l'assurance dure une heure. L'entretien préliminaire peut durer une heure et demie, parfois deux heures. Donc il faut relativiser cela. Et il faut le comparer aussi aux tarifs des autres... professionnels de santé, spécialistes notamment, en fonction de la ville où vous êtes. Alors, je reviens sur l'hypnose, ça coûte cher. Oui, la séance peut paraître onéreuse dans la mesure où elle n'est pas remboursée. Et en France, on a l'habitude que tout soit remboursé. De point de vue santé, ce qui est de moins en moins vrai aujourd'hui, ce qui fait grogner pas mal de monde, à titre légitime. Alors, en sachant que nous avons des statistiques de réussite considérables, qui n'ont aucune commune mesure avec la plupart des thérapies, et bien souvent aussi avec des tentatives de la médecine, sur certains, bien évidemment, sur certains problèmes psychologiques, hein, dont pour lesquels les gens viennent nous consulter, et puisqu'ils ont déjà consulté sans succès d'autres thérapeutes ou des médecins, en sachant que l'hypnothérapie, l'hypnose clinique peut apporter très rapidement en quelques séances des bienfaits, écoutez, non, là on relativise tout de suite et immédiatement le prix, l'investissement dans notre technique, dans l'hypnose. Ça n'a pas de prix finalement de très rapidement retrouver un confort ou de supprimer une souffrance ou un comportement gênant. Ensuite, certaines personnes qui vont vous dire, vont exprimer qu'elles ont des difficultés à se relaxer, même chez elles d'ailleurs. Est-ce qu'elles vont pouvoir toutefois, par l'hypnose, d'une part réussir à se relaxer pendant la phase de transe, ou obtenir des résultats? Bien évidemment. Encore une fois, cette faculté que nous avons, nous les humains, à être la plupart du temps dans ce mode psychologique de conscience modifiée, voilà ce qu'est l'hypnose. Donc, quel que soit leur état de relaxation pendant la séance, quel que soit leur état où ils pensent, mais ça c'est encore une fois de manière consciente, être dans un état particulier qu'on pourrait appeler l'hypnose, oui, ils réussiront à se mettre dans un état de relaxation suffisant. Souvent, les gens ne prennent pas le temps chez eux d'essayer de lâcher prise, de se relaxer. C'est aussi pour ça qu'ils doutent de leur capacité à se laisser aller, peut-être dans un cadre particulier, dans le cabinet d'un hypnothérapeute, avec tout l'aura, parfois un peu mystique, mais que vous aurez encore une fois démystifié bien avant. Donc des difficultés à se relaxer. Et là, vous leur dites tout simplement quelles que soient les difficultés qu'ils ont à se relaxer, la plupart du temps avec vous, et vous constaterez après avoir pratiqué, je ne sais pas, 10, 20, 30 séances, même avec des gens qui ont des difficultés, que ceux-ci vont se laisser aller dans un état particulier et agréable, de relaxation importante, que finalement c'est un peu la cerise sur le gâteau, et ils vont vous dire bien souvent, ah, je serais bien, après la séance, hein, je serais bien resté dans cet état-là. Vivement la prochaine séance pour le retrouver. Bon, ça, encore une fois, c'est la cerise sur le gâteau, c'est l'effet qui se coule, ce n'est pas ce que nous recherchons. Bien évidemment, on le prend pour acquis, et c'est très bien, parce que ça leur apporte déjà quelque chose, et peut-être que dans l'absolu, c'est utile pour faire travailler l'inconscient, mais le but du jeu, c'est quand même, ultérieurement, les bénéfices qu'ils obtiendront avec la séance. Donc, ça, vous pouvez l'utiliser dans votre discours, pour les rassurer par rapport à leur capacité qui serait douteuse, qui ne serait pas à même de les amener dans un état de relaxation nécessaire à la séance. Et puis surtout leur dire que voilà, encore une fois, ce qu'ils vont ressentir pendant la séance, ça sera du conscient, et que ce que l'inconscient utilise comme matériau pour travailler, personne ne le sait, donc il ne faut pas qu'il se tracasse l'esprit avec ses idées et ses pensées parasites. Dernier point, enfin non, je conclus sur le point sur la relaxation, etc. Ce qui est aussi important de leur expliquer, c'est que lors de la première séance, la plupart des gens sont un peu plus à l'écoute de votre discours et ont tendance à moins se laisser aller, parce que voilà, ce n'est pas habituel de s'allonger devant un hypnothérapeute, d'écouter son discours, de le suivre, d'essayer de mettre en œuvre ce qu'il nous demande de mettre en œuvre, le ressenti physique, de se projeter dans des visualisations particulières, d'essayer de générer des images, des émotions, des sensations. Voilà, ce n'est pas habituel, et donc les gens ont tendance à vouloir écouter un peu à quelle sauce ils vont être mangés. Et c'est bien légitime. Ça, vous pouvez leur dire, et vous pouvez aussi leur dire que, bon, la plupart du temps, dès la seconde séance, une fois qu'ils ont compris comment ça se passe, et une fois qu'ils ont réussi à se mettre quand même dans un état particulier, agréable, et probablement utile pour travailler à la première séance, voilà, ça se passera, de manière, très facile, comme une lettre à la poste. Bon, ce que je viens de dire, c'est pas une vérité non plus. C'est-à-dire que des gens qui ont des doutes, peut-être même quelques résistances, qui hésitent, qui pensent ne pas pouvoir se relaxer, vont aussi très facilement à la première séance, même s'ils sont concentrés sur votre voix et votre discours, dès la première séance, réussir à se mettre dans un état particulier, particulièrement agréable, particulièrement profond et utile au travail que nous allons effectuer ensemble. Donc voilà, tout cela, questions-réponses, ces fantasmes, ces idées reçues que nous avons développées dans ce podcast et dans un autre, donc si je me souviens bien, dans les définitions sur l'hypnose, vous pouvez les utiliser dans votre discours, les faire vôtres, les présenter de la manière dont vous le souhaitez. Tout cela va s'enrichir au fur et à mesure de votre expérience avec vos clients et vos patients. Dans tous les cas, l'important, c'est de rassurer. L'hypnothérapie, ce n'est ni de la métaphysique. C'est une technique naturelle. C'est pour ça que, d'une part, elle fonctionne. Et c'est pour ça que les... Excusez-moi, là, je n'ai pas préparé ma conclusion. Ça, c'était vraiment pas très sérieux. Donc, c'est pour ça que cette technique fonctionne, que nous avons des... résultats sans commune mesure avec les autres techniques thérapeutiques. Encore une fois, à considérer que l'hypnose est une technique thérapeutique et un travail sur soi. Et donc, même si nous n'avons pas le mode d'emploi de cette technique, nous avons des résultats et c'est bien cela sur lequel il faut se concentrer. C'est-à-dire que nous obtenons des résultats, nous obtenons des bénéfices, votre client règle un comportement douloureux, un comportement négatif, il réussit à supprimer un nœud, un blocage, une souffrance, et entre guillemets, et alors là je vais utiliser, excusez-moi pour conclure le terme, un terme religieux, alléluia, et on passe à autre chose. Et c'est bien finalement ce qui les intéresse, et si vous avez des succès, c'est la porte ouverte à toute la confiance que votre client pourra vous apporter. Et croyez-moi, de ce point de vue-là, le bouche à oreille, c'est par là essentiellement que vos clients ultérieurs viendront vous voir. Donc voilà pourquoi j'hésitais dans cette conclusion, c'est que me trottait dans la tête une idée supplémentaire par rapport à ces fantasmes que l'on prête à l'hypnose, c'est que on peut modifier finalement la personnalité d'une personne. La personnalité du client qui vient vous voir, que ce soit par incidence, hein, que ce soit par... Sans le vouloir ou volontairement. Bon, encore une fois, nous les hypnothérapeutes, nous ne pouvons pas mettre quoi que ce soit dans l'esprit des gens. Ça, c'est aussi une question qu'on nous pose de temps en temps. Ça n'existe pas. Si nous faisions cela, si nous pouvions le faire, si un seul d'entre nous pouvait le faire, ça veut dire que les autres hypnothérapeutes ou les hypnotiseurs pouvaient le faire et ces gens-là seraient les maîtres du monde. Ils auraient mieux à faire que de faire le bien et que d'aider les autres et que de régler les soucis des autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi parce que l'on constate que, ça, en général, comme on l'a déjà vu, cela reste neutre. C'est-à-dire que ça ne modifie pas une personnalité, le symptôme ne sera pas aggravé, la personnalité ne sera pas modifiée. Donc il faut les rassurer là-dessus. Ça, c'est la question le point qui me trottait dans la tête depuis tout à l'heure, que j'aurais peut-être dû aborder dès le début. C'est une des questions assez fréquentes, finalement. Est-ce que ça modifie la personnalité ? Alors, je dis non, mais oui en même temps, c'est-à-dire que si vous arrivez à supprimer un blocage d'une personne, une souffrance, à modifier un comportement, alors bien évidemment, sa personnalité sera modifiée, mais elle sera modifiée de façon positive, et c'est l'essentiel, et c'est la raison pour laquelle il vient vous voir. Donc voilà, non, on ne peut pas modifier la personnalité de façon négative, mais oui, la personnalité sera modifiée de façon positive dans la mesure où c'est ce qu'il souhaitait travailler et obtenir.